explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je fais point.
Daniel Fievé.
C'est l'histoire d'un burn-out qui tourne bien, d'une crise de la quarantaine qui donne des ailes. C'est l'histoire d'une avocate, Sabine Bernert, qui après avoir passé 20 ans dans les prétoires, a eu envie de prendre l'air, de s'évader, de se rapprocher de la nature et de vivre pleinement sa passion pour le monde animal. Avec son appareil photo, elle est partie observer la faune de pays lointains, des paresseux du Costa Rica aux pangolins de Namibie, en passant par les kiwis de Nouvelle-Zélande. Ces voyages l'ont rapprochée de celles et ceux qui s'engagent dans la protection des espèces menacées. Aujourd'hui, entre deux expéditions, Sabine Bernert est toujours avocate, mais une avocate beaucoup plus heureuse. Et cet après-midi, elle va nous emmener avec elle à la découverte de cette faune sauvage qui lui a fait tant de bien.
Que c'est beau.
Sur France Inter.
Mais vous ne m'écoutez pas, hein ? Vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Sabine Bernert.
Bonjour Daniel Fievé.
Photographe, passionnée de nature, investie dans la protection des espèces menacées et accessoirement avocate. Vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Le génie de la nature qui se tient au Muséum d'histoire naturelle du Havre. Vous avez également créé la collection d'ouvrages pour enfants Génial Nature aux éditions Odyssée. Et nous sommes ravis de partir avec vous observer ce monde animal qui vous passionne. À 17h, nous partirons sur les pas des aventuriers pionniers qui ont participé à l'exploration de l'Amérique du Nord. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay, préparée par Solène Vary et Mathieu Aoued, avec l'aide de Cyrielle Laborde.
Il sort ?
Il sort, mais il a sa tête, là.
Ouais, il finit par s'habituer à moi. Faut qu'il s'habitue, en fait, à ma présence, à ma chaleur et au bruit de l'appareil. Là, je me frise les moustaches, si je suis un chat. Faut que je l'attende pour qu'il sorte et que je l'attrape au vol. Pas très difficile pour nos prédateurs de se nourrir dans ce pays.
Sabine Bernert, à l'affût, avec votre appareil photo, nous étions en Nouvelle-Zélande. Vous vous souvenez de ce que vous observiez de si près, à s'en friser les moustaches, comme vous dites ?
Je m'en souviens parfaitement, c'est un souvenir absolument inoubliable. C'était un tout petit lézard. Oligosoma, un skink qui était caché dans son petit terrier et qui pointait le bout de son nez. Ouais. Et c'est le moment où j'expliquais pourquoi ces malheureux lézards ont été décimés à l'arrivée des humains et des animaux qu'ils ont apportés avec eux.
Ouais. Parce que la Nouvelle-Zélande, alors, c'est votre pays de cœur, mais effectivement ça a été pendant très longtemps un endroit isolé, coupé du monde, même sans mammifères. Hein. Pendant longtemps, pas que les hommes n'y étaient pas, les mammifères aussi étaient absents de cet archipel.
Pendant 85 millions d'années, ce qui est quand même un petit temps, c'est un continent qui s'est détaché d'une plus grosse parcelle qui s'appelait Gondwanaland et qui est parti tranquillement s'installer dans l'océan, loin de tout, et qui a disparu. En fait, il reste aujourd'hui 10% de la surface de la Nouvelle-Zélande qui est en surface. Oui. Tout le reste, le continent Zélandia, est en dessous. Et sur ces 10% qui sont restés, il y avait les animaux qui se sont détachés avec. Donc on y trouve les espèces les plus anciennes de la planète. On trouve beaucoup de reptiles, des oiseaux, mais effectivement pas de mammifères. En tout cas, pas de mammifères terrestres. Il y a beaucoup de mammifères marins qui l'ont rejoint, des lions de mer, des cétacés. Il y a des mammifères volants, il y avait des chauves-souris assez étonnantes qui étaient là-bas. Mais en tout cas, personne qui chassait l'odorat.
Ah oui,
c'est ça. Ça change tout pour eux. Et donc, tous les animaux de Nouvelle-Zélande étaient naïfs et adaptés à leur vie.
Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés figés dans leur époque. Ils ont évolué, mais ils ont évolué loin des autres espèces animales, loin du continent. Et donc, ils ont évolué différemment, avec des prédateurs en moins. Donc, voilà, l'odorat n'était pas indispensable pour eux sur leur île. Sauf qu'il y a 600 ans, les humains débarquent. Les humains débarquent avec toute une caravane de souris, de chats, de chiens, et tous leurs animaux, quoi.
On dit que la Nouvelle-Zélande est ce qui ressemble le plus à la vie sur une autre planète.
Oui.
Et c'est vrai que quand les Maoris ont débarqué la première fois sur ce continent, ils ont dû avoir un choc parce qu'il y avait des oiseaux géants, les moas qui atteignaient 3 mètres. Il y avait un aigle de Haast, pareil, avec une envergure de 3 mètres ou 4 mètres. Il y avait des espèces de monstres, c'était Jurassic Park réellement. Ouais. Mais il n'y avait rien à manger, ou presque. Ouais. Et donc, assez rapidement, puisque tout avait un équilibre différent. Donc les espèces se reproduisaient tard, lentement, faisaient peu de petits. Il fallait conserver un équilibre qui a été rapidement rompu. Oui.
On comprend vite le problème. Il n'y avait pas grand-chose à manger, il y avait ces espèces sans défense qui visiblement étaient comestibles. Forcément, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, voilà. C'est ça. On a beaucoup entamé en tout cas la biodiversité locale.
Et quand les Européens sont arrivés, c'était l'âge d'or industriel chez nous à l'époque. Hein. Ouais. Donc on est allé très très vite. Mais ce qui est intéressant en Nouvelle-Zélande, et c'est là où le sujet devient passionnant, c'est comment on a sauvé et préservé ces animaux.
Oui, parce qu'il y en a quand même certains qui sont encore sur cette île et qui valent le coup d'œil et qui valent d'être conservés. Par exemple, le kiwi. Alors le kiwi, décrivez-le, je parle bien de l'oiseau, hein, pas du fruit. Hein. Il est très étonnant, cet oiseau. Parlez-nous du kiwi.
Ou du néo-zélandais. Il est devenu un tel symbole qu'en fait, les néo-zélandais s'appellent entre eux des kiwis.
Ah oui, d'accord.
C'est, voilà. Ouais. Et c'est un oiseau, si on peut l'appeler oiseau, très très particulier. Oui. Il a des plumes qui ressemblent à de la fourrure. Oui. Il a plus d'ailes ou des petits moignons, des vestiges d'ailes. Il vit la nuit dans un terrier et c'est un peu comme notre blaireau, en plus sympathique, oui. On va dire.
Le blaireau est assez sympathique.
Mais le kiwi, non, parce que le kiwi ne s'attaque à rien.
Ah, oui.
Sauf entre eux, parfois les mâles sont assez territoriaux, ce qui leur permet d'ailleurs, heureusement, de résister aux envahisseurs.
Donc, il vit dans un terrier, il ne vole pas, il est quasi aveugle. Déjà que vous nous aviez dit, ils n'ont pas d'odorat, les animaux de la Nouvelle-Zélande. Celui-là,
je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'odorat, attention. Ah, je dis qu'ils ne chassaient pas à l'odorat.
Ah oui, d'accord.
Ce qui est très différent.
Alors, comment il chasse? Lui, il n'a quasiment pas l'usage de la vue.
Il a un bec absolument extraordinaire et qui inspire beaucoup en biomimétisme. Il a un bec qui fascine les scientifiques. C'est un bec qui est très très long avec les narines qui sont tout au bout.
Oui.
Et ce bec, il va le plonger dans le sol et il va sentir les vibrations de tous les petits insectes, de toutes les petites choses qui sont dans le sol et qu'il va manger. Donc il a un odorat qui est extrêmement développé, mais avec ce bec assez particulier.
D'accord. Et puis
il a des vibrisses, comme un chat.
Ouais.
Donc il voit la nuit.
D'accord, des vibrisses, c'est-à-dire des sortes de moustaches.
Les grandes moustaches, on appelle ça des vibrisses, donc c'est comme un gros chat en fait. Hein. Même avec cette fourrure, on dirait presque un gros chat.
Oui. Un oiseau vraiment particulier, qui a évolué d'une façon tout à fait particulière. Et sa vie sociale, son organisation aussi, c'est un grand solitaire, le kiwi.
Alors, toutes les sous-espèces, sauf une. Il y a une sous-espèce de kiwi qui s'appelle le Tokeaka, qu'on trouve uniquement sur l'île Fiordland. Et lui vit en famille, mais c'est le seul.
D'accord.
Tous les autres sont des gros solitaires. Et ils se retrouvent, le couple se retrouve uniquement pour se reproduire. Et puis ensuite, la femelle kiwi va porter un œuf qui est un monstre, qui est encore plus gros qu'un œuf d'autruche, qui va faire 30% de son poids.
Pourtant, c'est pas si gros que ça, un kiwi. Donc
non,
c'est...
mais comme il va devoir se débrouiller tout seul, en fait, tout est bien organisé pour. Donc, d'accord. Une fois que la femelle s'est débarrassée de l'œuf
gigantesque qu'elle a réussi
à le pondre, elle se retrouve très, très, très mince. Et à ce moment-là, c'est le papa kiwi qui fait le boulot de couver l'énorme œuf et de lui parler de temps en temps. J'ai réussi à filmer d'ailleurs une séance où on voit comment on peut interagir avec un œuf de kiwi.
Ah oui. Comment on peut interagir avec un œuf?
Ah, je vous raconterai après.
D'accord.
Alors donc le papa couvre son œuf et puis quand il sent que le petit qui lui répond à travers l'œuf est prêt à sortir, le papa s'en va et va aussi se nourrir et vivre sa vie.
Pas très famille, hein, le kiwi.
Pas très
entre
famille.
La femelle qui pond toute seule, le mâle qui couvre tout seul et le petit qui sort de son œuf tout seul.
En même temps, vous avez vu le bec d'un kiwi? Alors, j'ai assisté une fois à la naissance d'un kiwi sortant de l'œuf. C'est le portrait craché de ses parents. Mais incroyable, c'est pas un poussin, c'est un kiwi miniature.
Junior, il est
parfait. Et donc Junior se débrouille avec tout ce qui reste dans son œuf, parce qu'il y a beaucoup de jaune, il se nourrit tout seul, et puis après il va vivre sa vie.
D'accord. Alors vous nous disiez comment ils peuvent interagir alors à travers la coquille.
Alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert en Nouvelle-Zélande, je ne savais pas que les oiseaux parlaient à leurs poussins.
Ouais.
Et alors donc je l'ai vu avec des kiwis, donc la façon de sauver les kiwis, qui a très très bien marché en Nouvelle-Zélande, et c'est un programme incroyable, qui s'appelle Operation Nest Egg, donc ça veut dire en fait opération petit pécule. Les chercheurs ou les bénévoles, tous ceux qui travaillent vont chercher les œufs dans la nature, donc prennent les œufs du père, les ramènent dans des sanctuaires, là on les couve. Une fois que les poussins ont éclos, on les nourrit, on les garde pour qu'ils aient un certain poids. Ensuite on les ramène dans des crèches où ils vont être protégés, et quand ils sont adultes, on les remet là où on les a pris. Et ça marche du feu de Dieu, parce que là, le poussin étant devenu un grand adulte, peut se défendre. Et à ces moments-là, quand on a encore les œufs, on vérifie s'ils sont bien formés et on leur parle. Donc pour leur parler, on met un crayon sur cet immense œuf, on parle au kiwi et l'œuf répond. Donc on voit avec le crayon que
C'est en bougeant.
L'œuf peut bouger.
Ah,
l'œuf, le poussin à l'intérieur de l'œuf, répond.
Incroyable. On pourra mettre cette vidéo sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour voir ça de plus près. Et alors, vous le disiez, hein, le kiwi est devenu un peu un emblème hein, pour la Nouvelle-Zélande. Et vous avez rencontré notamment un Maori, Ranji, très attaché à la protection de l'environnement, qui a, il vous a chanté, et vous l'avez enregistré, une prière pour la nature.
Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei tāku. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ato tīpuna tāne nui ārangi. I pikiti ārā narangi tūhāhā ki te tihi o mānono. I rokohina tūrā, ko te i o te matua kore, tuku ai hua nā kete o te wānanga. Ko te kete tūri, ko te kete tūātea, ko te kete aronui.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, Sabine Bernhardt, dans cette prière?
Alors, avec beaucoup de respect, je vais parler sur le reste de la prière qui se présente. Eh bien, c'est une prière que Rangi a préparée pour la partager avec nous, qui nous raconte comment le savoir a été passé par les anciens aux plus jeunes, à nous, et comment protéger la nature. Alors, les anciens, chez les Maoris, ça peut être leurs ancêtres physiques, leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, mais également la montagne dont ils viennent, la rivière dont ils dépendent et les animaux qui étaient là avant nous. Donc on a une approche culturelle qui est très très différente, c'est que eux sont, je dirais pas sur un pied d'égalité parce qu'ils sont arrivés après en fait. Pour eux, la nature est leur ancêtre global, le père, la mère qui ont créé l'univers. Et dans cette prière, donc Rangi nous raconte comment le savoir a été transmis et ce que nous devons en faire. Et puis il raconte également dans cette prière qu'il l'a préparé pour aller passer la parole dans le monde à travers cette photo, à travers les vidéos que nous avons de lui.
C'est aussi une partie de votre travail. Hein. Vous allez observer la nature, vous allez aussi à la rencontre de ceux qui la protègent et qui agissent pour essayer de sauvegarder ces espèces. Vous voulez faire connaître leur action et puis peut-être aussi sensibiliser ceux qui ne le sont pas encore trop à cette cause-là, cette cause de la protection animale.
Les rencontres et les histoires valent bien mieux que des mots. Et ce que j'essaye de faire, c'est de rapporter ce que j'ai vécu, ce qui m'a touché, comment je les ai rencontrés et de rester le plus simple possible, simplement de transmettre aussi ces histoires.
Alors, vous avez aussi découvert en Nouvelle-Zélande un autre oiseau étonnant, le kakapo. Alors, le kakapo, d'ailleurs, vous nous avez donné un enregistrement. Il faut le savoir hein, que c'est un oiseau parce que ça fait vraiment un drôle de bruit, le kakapo. On ne s'est pas trompé, hein. c'est bien le kakapo.
Il peut y avoir pire d'ailleurs.
D'accord. Alors lui, il est en mauvaise posture, alors il fait 4 kilos je crois cet oiseau, 60 cm, c'est le plus gros perroquet du monde, mais il est là encore menacé d'extinction.
Alors c'est un perroquet unique, il est nocturne, il est terrestre, donc il a cessé de voler puisqu'il n'avait pas de prédateur qui le chasse à l'odorat, et il est totalement mimétique dans les forêts de Nouvelle-Zélande, quand vous le cherchez, avec les radioémetteurs, parce que chaque individu a son signal. Quand vous le cherchez, vous êtes capable de marcher dessus parce que vous ne le voyez pas.
Ah oui.
C'est absolument incroyable. Ouais. Mais il a une odeur.
Et il sent quoi ?
La mousse, la forêt. Alors les rangers vous diront, ça sent les anges. Je suis d'accord avec eux.
Ça sent bon ? Ça sent vraiment bon ?
Ça sent vraiment bon.
Ouais,
la première fois que j'ai eu la chance d'aller à Codfish Island, qui est une des îles où ils sont essentiellement protégés, où j'ai accompagné des protecteurs pour faire leur travail, donc j'étais bien sage. J'attendais qu'on me dise OK pour prendre des photos. Je voulais pas les gêner. J'étais très impressionnée par le premier kakapo que je rencontrais, qui était l'un des plus anciens qu'ils avaient retrouvé. Et à la fin, le ranger m'a dit « Bon, OK, tu t'es bien tenu, tu as été sage. Tu as droit à un cadeau, tu peux l'embrasser sur la tête avant qu'on le relâche. »
Ah, d'accord. Vous avez fait un bisou à ce kakapo.
Et j'ai fait un bisou à ce kakapo. C'est absolument inoubliable.
Je vous propose d'écouter ce que disait le grand reporter et photographe Pierre Ishak au sujet de l'essor de ce qu'il appelle la chasse photographique. Nous étions en 1955.
La chasse photographique commence à compter une poignée de fanatiques. Nous en avons une preuve dans la création toute nouvelle de l'association sportive de la chasse photographique pour la France et l'Union française. Elle a pour objet, disent les premiers articles de ses statuts, de rassembler tous les sportifs, chasseurs ou non, s'intéressant à la vie des animaux sauvages et désireux de voir remplacer progressivement, pour maintenir ou restaurer l'équilibre des espèces vivantes, l'usage du fusil par celui de l'appareil photographique. Et ensuite, l'obtention par le développement de la chasse photographique, d'une meilleure compréhension par l'homme de ses devoirs envers la nature, laquelle doit être exploitée, mais non détruite.
Nous étions en 1955, mais j'imagine que vous vous inscrivez parfaitement dans la lignée de ce que dit Pierre Ichac. Voilà, remplacer le fusil par l'appareil photo et avec la photo, sensibiliser le plus grand nombre à la protection animale.
C'est tout à fait ça, et je pense que l'association doit être la SCPF qui existe toujours, ouais. où j'ai beaucoup d'amis et dont je suis toujours le travail. Et c'est pour nous, la sensibilisation passe effectivement par l'image et par l'histoire, parce que quand on personnalise les rencontres, quand on personnalise les photos, on touche. Et on fait partager notre passion et bien sûr, on rassemble.
Tous les animaux sont photogéniques ?
Tous, absolument.
Oui,
vous voulez voir mes belles araignées?
Mais pourquoi pas? On ira peut-être voir quelques araignées aussi pendant cette émission. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. C'était Angelico, Mélissa Lavaux sur France Inter.
Nadia, tu n'as rien ?
Non, non. J'ai vu un lion, il est parti par là.
Vous ne l'avez pas tué au moins ?
Non, bien sûr que non. J'ai seulement tiré pour le faire fuir. Mon mari et moi sommes chasseurs d'images, pas de lions.
J'ai dans l'idée que le lion qui était là tout à l'heure et notre Clarence, il est un peu de la famille.
J'ai remarqué qu'il louchait.
Aucun doute, c'est Clarence.
J'ai cru que j'avais des visions.
Oh, pas le moins du monde. Je dois dire que d'habitude, Clarence est un peu moins démonstratif. Permettez-moi, malgré cet incident, de vous souhaiter un excellent séjour.
Merci.
Un extrait de la série d'Actari qui met en joie notre invitée Sabine Bernert parce que ça vous rappelle quelques souvenirs de jeunesse. C'est votre premier contact avec ce monde lointain, cette faune sauvage d'Actari, Tarzan aussi je crois.
Moi j'ai grandi avec d'Actari. Ouais. Bon, il y en a beaucoup là, en nous entendant qui vont se dire c'est quoi d'Actari ?
Ouais. Les plus jeunes.
C'est encore plus jeune, ouais, ouais. Mais... Alors, c'était génial, l'Actari, on avait des séries extraordinaires.
C'est ce qui vous a donné cette passion pour la faune sauvage. À quand remonte-t-elle? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une envie, depuis toute petite, de vous intéresser à ces animaux lointains.
Je pense, dès que j'ai commencé à marcher, je rêvais d'être Tarzan, pas Jane, hein, ouais. Surtout pas Jane, ah oui. Tarzan.
D'accord.
Tarzan et d'Actari, d'être un scientifique qui travaillait dans la jungle, qui se promenait en lion et... Ouais.
Alors vous avez mis ce rêve entre parenthèses pendant les premières années de votre carrière, puisque vous avez été avocate, vous l'êtes toujours, mais maintenant vous faites aussi de la photographie et vous prenez le temps de voyager. Et il y a eu ce déclic, voilà, à l'approche de la quarantaine, en 2006. Vous dites que votre métier d'avocate ne vous suffit plus, qu'il y a ce désir, cette passion que vous éprouvez depuis toute petite pour les animaux. Et vous partez pour l'Afrique. Ça a été le déclic, ce grand voyage.
C'est ça le bonheur de la quarantaine. Ouais. C'est que tout d'un coup, ça donne une force absolument incroyable pour commencer à suivre ses rêves, en fait.
Ouais. Vous partez pour la Namibie, c'est ça ?
J'ai fait un premier voyage en Namibie, et c'est là où j'ai trouvé le déclic, effectivement, pour aller au bout de ma démarche. Je voulais faire un livre depuis que j'étais petite, ouais. Puisque mon père était écrivain, donc j'ai grandi dans les bouquins. Et je créais des maquettes déjà, je commençais à prendre des photos, je dessinais, j'avais appris les programmes pour faire ça, mais il me manquait le fond de l'histoire. Et là, je l'ai trouvé chez les protecteurs de la nature.
Ouais. Alors, c'est quoi le premier protecteur de la nature? C'était dans une ferme, il s'occupait de la protection des guépards.
Les tout premiers que j'ai rencontrés, donc dans ce premier voyage qui était préfigurateur en fait, hein, à Manny Lodge qui depuis a fermé, et c'était une famille de Français qui s'occupait des guépards, ouais. Et où j'ai appris comment se passait en réalité la protection et la réintroduction d'animaux captifs.
C'est ça, parce qu'à ce moment-là, vous réalisez aussi qu'il y a ceux qui ont de bonnes intentions, mais qui font mal. C'est-à-dire que pour pouvoir vraiment défendre et protéger ces animaux, il faut encore savoir s'en occuper et les réintroduire pour pas les rendre complètement dépendants des êtres humains qui s'en occupent.
C'est voilà, ça toute la difficulté. Voilà, c'est exactement ça. Il faut pas les imprégner, et si on veut les rendre à la liberté, il faut arriver à les élever pour une vie sauvage ultérieure, ouais. Ce qui est particulièrement difficile.
Ouais. Et parmi les gens que vous rencontrés, souvent ils ont un peu ce même profil que vous, c'est-à-dire qu'ils ont une carrière professionnelle tout autre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été vétérinaires, ils n'ont pas été dans le domaine des animaux et de l'élevage d'animaux, et tout d'un coup, ils basculent dans autre chose. Vous croisez des gens qui étaient dans le tourisme, vous croisez des gens courtiers en métaux, vous croisez une autre avocate aussi, comme vous, et puis un jour, il y a ce déclic. L'envie de protéger la nature.
Alors quand je suis partie pour mon vrai voyage, on va dire, de reconnaissance pour mon livre, ça c'était la même année que mon premier voyage en Namibie, ouais. Et j'ai un ami pour qui je venais juste de gagner un gros procès, Patrice, qui me dit « Allez, il faut que je te rende l'appareil, qu'est-ce que tu veux ?» Et je lui dis « Il faut que je fasse ce livre, il faut que je parte. » Il m'a dit « Pas de problème, je t'emmène. » Il a loué un Cessna, une aventure complètement dingue. Il a loué un Cessna, donc un tout petit avion, ouais. Et il m'a montré une carte de l'Afrique australe, il m'a dit « Où veux-tu aller ?» Ça ressemblait à un conte de fées. Hein.
Ah oui, ouais.
Et on l'a fait, donc on est parti d'Afrique du Sud. Et on est parti à la rencontre des protecteurs. J'ai une autre amie qui a une agence de voyage qui m'a aidée, qui m'a ouvert les portes, Sylvie, et j'ai atterri comme ça chez Brian Jones, par exemple, qui est un homme très très difficile à Moholoholo, qui doit se battre constamment.
Oui. Pour défendre les animaux,
voilà.
Qui réintroduit des animaux menacés.
Qui a fait un travail incroyable, c'est là où j'ai appris par exemple comment il avait réussi à réintroduire des cervales, puisqu'on en parlait, donc à les élever, à les faire se reproduire en captivité, puis leur apprendre à chasser eux-mêmes, donc... On donne pas du canigou à des cervales si on veut qu'ils se débrouillent tout seuls. On leur apprend à chasser donc des petites proies vivantes comme fait la mer, de plus en plus grosses. Et puis après, une fois que c'est prêt, on les relâche dans des réserves ou dans des endroits protégés.
Ouais. Il y a un vrai savoir-faire. Alors beaucoup plus récemment, on fait un peu des bonds dans le temps, mais beaucoup plus récemment, vous êtes allé, disons-le, tomber en amour pour un autre animal menacé, le pangolin. Alors le pangolin, c'est une dame aussi, une de vos amies, Maria Dietmann, qui s'occupe de la préservation des pangolins. Je vous propose de l'écouter au sujet de cet animal.
Il est l'animal le plus victime de trafic illégal dans le monde. Plus que le rhinocéros, l'éléphant et tigre combinés. Le pangolin n'a jamais été mis en captivité parce que c'est très timide et terrifié par les gens. Alors ça se met en boule une fois capturé et ça se laisse mourir dans 99% des cas. Donc il ne vit que dans la nature et pas en captivité. Il y a beaucoup de croyances traditionnelles en Afrique et en Asie qui donnent des vertus médicinales à aphrodisiaques aux écailles des pangolins. Mais c'est stupide, parce qu'elles sont à 100% identiques à nos ongles humains. Si les pangolins s'éteignent dans la nature, alors ils s'éteignent tout court parce qu'on ne peut pas les garder en captivité.
Il n'est pas très connu le pangolin. Je pense que si on demande aux auditeurs de nous dessiner un pangolin à main levée, ce sera peut-être pour certains assez approximatif. C'est l'espèce la plus braconnée au monde. Elle est très convoitée, cette espèce. C'est une espèce complètement vulnérable. Ils ne savent pas se défendre. Leur seul moyen de défendre, c'est de se mettre en boule. Alors, ça fait peur à personne, il n'y a plus qu'à se servir.
C'est une vraie grande catastrophe écologique. Et c'est vrai que malheureusement, le pangolin n'est pas très connu. Donc, on travaille beaucoup pour le faire découvrir. On fait beaucoup d'expositions, on fait des publications. Et Maria Dickmann est une des femmes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées. Donc ça a été parmi mes premières rencontres à mon premier voyage et elle ne cesse de m'étonner. Ouais. Donc elle était avocate.
Ouais, elle aussi.
Avocate. Elle a tout lâché. Elle a commencé par vouloir défendre des vautours. C'est là où je les ai rencontrés. Et puis ensuite, on lui a apporté un bébé pangolin. Elle a commencé avec une femelle pangolin qui avait été blessée. Elle a réussi à gagner sa confiance et la femelle était enceinte. Elle a accouché de son petit et quand elle a décidé que ça suffisait, que Maria pouvait très bien se débrouiller, elle est partie. Et donc Maria a élevé ce premier petit pangolin qui s'appelait Katiti. Ouais. Et à partir de là, elle a continué.
Sauf que une fois qu'il a été élevé par des hommes, il ne pourra plus jamais retourner dans la nature tout seul, ce petit pangolin. Alors
de toute manière, c'est très difficile de les relâcher parce qu'on sait que de toute façon, ils vont être braconnés. Ouais. Ce sont des animaux qui sont d'une gentillesse et d'une douceur extrême. Ils ne savent pas se défendre. Ouais. Donc ça ressemble, on va dire, à un artichaut.
C'est une bonne définition.
Ça se roule en boule, ou à une pomme de pin, voilà. Ouais. Avec, ils ont une armure qui est faite d'écailles qui sont en kératine, donc comme nos ongles, comme nos cheveux. Ouais. C'est ce que malheureusement les Asiatiques utilisent comme poudre de perlimpinpin, on va dire, comme pour la corne de rhinocéros. Quand ils sont menacés, ils se roulent en boule complètement, ils sortent leurs écailles et aucun prédateur ne peut les attraper. Mmh. Sauf mais si vous êtes un humain, vous l'attrapez, vous le mettez dans un sac, vous partez avec et vous le vendez. Mmh. Voilà.
Ouais, c'est tout le drame des pangolins. Alors l'Afrique vous a marqué, hein, on l'entend, et ça vous a donné envie d'aller voir ailleurs, d'aller explorer toute la richesse du monde animal. Et il est un pays particulièrement bien pourvu en matière de biodiversité, c'est le Costa Rica.
Un singe là-haut. C'est un singe araignée, l'espèce de singe la plus grande du pays. Il est principalement frugivore. Il mange des fruits, des fleurs et un peu de feuilles. Et c'est le seul singe du Costa Rica à n'avoir que 4 doigts. C'est pour se déplacer plus rapidement dans les arbres. Et ça? C'est un colibri. Un colibri posé sur une branche et qui appelle les femelles. Il chante toute la journée. Toute la journée.
C'est pourtant tout petit un colibri, ça fait autant de bruit.
Oui, petit mais bruyant.
Oui.
Un extrait d'Échappée Belle sur France 5, un reportage diffusé cette année, en 2018. C'est un concentré de biodiversité. Le Costa Rica, tout petit pays, mais qui concentre une importante biodiversité. C'est assez incroyable, ce pays.
C'est un pays fabuleux, comme un joyau.
Oui.
Et ça va des singes araignées dont parlait ce reportage, que j'ai découvert chez Carol Cruz, qui est aussi une femme extraordinaire, qui est la courtier en métaux dont vous parliez, une américaine, qui avait commencé par ouvrir un bed and breakfast. Et puis finalement, elle a tout changé pour avoir un sanctuaire de vie sauvage.
Ouais.
Et élever ses bébés singes araignées, qui sont des vrais petits monstres.
Pourquoi on les appelle les singes araignées?
Parce qu'ils ont les bras aussi longs que les jambes et ils ont une queue préhensile terriblement longue. Et je vous assure, quand ils s'accrochent à vous... vous ne pouvez strictement rien faire pour vous en défaire.
D'accord.
J'en ai un bon souvenir.
Un bon souvenir ou un mauvais souvenir de cette agression de singe araignée. Alors, ça représente 0,3% de la surface terrestre, le Costa Rica, mais 6% de la biodiversité mondiale. Vous disiez c'est un joyau, mais ça devrait aussi être un sanctuaire. Mais d'ailleurs, les dirigeants du pays l'ont bien compris. Ils en ont fait une vraie force, une vraie richesse de cette biodiversité, plutôt de la saccager. Ils ont décidé de prendre soin de leur forêt primaire. Il y a énormément de parcs naturels, ça se visite, mais dans des proportions relativement raisonnables, avec des nombres restreints pour que les touristes ne saccagent pas tout. C'est plutôt un pays qui donne de l'espoir en matière de conservation.
C'est l'or vert, le Costa Rica, et c'est effectivement un symbole de résilience et de réussite qui mérite tous les éloges. Mmh. Ils ont réussi à rétablir leur forêt, à préserver leur biodiversité, et ils n'ont pas tellement besoin de limiter les touristes par le nombre, mais physiquement, c'est tellement dur que je vous assure que vous pouvez y aller et découvrir des choses à plusieurs niveaux, en réalité. Vous pouvez voir des choses simples, et puis après, quand vous commencez à crapahuter avec 100% d'humidité et 40 degrés et des averses, vous voyez d'autres choses.
Ouais. Il y a quand même certains parcs, certaines forêts où il faut s'inscrire avant et au-delà d'un certain nombre, on ne peut pas y aller.
Donc, oui, tout à fait.
Il limite quand même.
Comme Corcovado, par exemple.
Ouais, voilà. Il limite quand même le nombre. Et évidemment, là-bas, on trouve le paresseux. Alors, le paresseux, c'est formidable, le paresseux, parce que c'est une sorte d'écosystème à lui tout seul. On trouve des coléoptères, des papillons dans sa fourrure. C'est une sorte un animal incroyable, aussi.
Nous, on l'a surnommé le HLM à insectes.
Oui, dans l'exposition au Muséum du Havre, c'est le HLM à insectes. Mais c'est bien trouvé, mais c'est vraiment ça, le paresseux.
C'est l'un des meilleurs exemples d'entraide entre les espèces qu'on est présenté. Oui. Et c'est passionnant comme animal. Et malheureusement, au Costa Rica, il n'est pas apprécié du tout.
Ah oui.
Et ça, c'est un travail que fait aussi une femme remarquable que j'ai rencontrée qui s'appelle Judy Arroyo, qui a créé un sanctuaire de paresseux, pareil, en récupérant une fois un paresseux. Et puis, elle est tombée amoureuse de cet animal et elle a voulu apprendre tout et partager son savoir et puis les protéger.
En même temps, il n'a pas tellement d'autre choix que d'abriter dans sa fourrure tous ces insectes, ces scarabées, ces papillons, parce qu'il est incroyablement lent, ce paresseux. Donc finalement, il se fait coloniser pour toutes ces espèces et presque un animal immobile.
C'est une symbiose, parce qu'en fait, le paresseux mange beaucoup de végétaux qui sont presque des poisons, et donc il a besoin de digérer, tout son métabolisme fonctionne autour de ça, c'est pour ça qu'il est aussi lent dans ses mouvements, sauf le paresseux à deux doigts, quand il a envie de ne pas être lent, il peut l'être.
Il peut accélérer.
Mais voilà, et donc son système pour se protéger des prédateurs est de ressembler à un arbre. Il ressemble effectivement à la mousse grâce aux algues qui vivent dans sa fourrure. Ouais. Et les algues, elles, ont besoin des insectes. Et les insectes ont besoin des algues. Et tout le monde a besoin du paresseux.
Et donc, pour se nourrir aussi, il peut parfois sucer ses poils de sa fourrure, paraît-il, pour manger ses algues. J'avais lu ça aussi. Allez, on va continuer un peu notre exploration du Costa Rica dans un instant avec notre invitée Sabine Bernert. Le temps d'un bivouac sur France Inter.
Cool cat, tuffing on the toe with a new hat. Ooh,
Cool Kate, c'était Queen sur France Inter, le temps d'un bivouac. Sabine Bernert, c'est vous qui avez enregistré ce son un peu terrifiant. Vous l'avez enregistré au Costa Rica. On est au milieu de la forêt et c'est un singe hurleur que l'on entend actuellement.
Moi, je l'ai vécu ce son. Ouais. J'ai pas réussi à l'enregistrer.
Ah, c'est pas vous qui l'avez enregistré.
Non, mais c'est le muséum qui le passe aujourd'hui en bande sonore, donc un son qui a été préparé spécialement pour notre exposition.
Pour l'exposition, au Havre,
immersion sonore.
Donc vous êtes commissaire, vous avez un petit lien, mais c'est pas vous qui l'avez enregistré.
Mais c'est pas moi qui l'ai enregistré. Par contre, je l'ai vécu.
Ouais.
Et alors, vous dormez, vous venez d'arriver au Costa Rica, vous dormez, et tout d'un coup, vous entendez ce son à une puissance 100, parce que là, on y a été doucement avec les oreilles des auditeurs, hein.
Ouais.
Ce son à une puissance 100 au-dessus de votre tête, et vous vous dites, je pense que Mars attaque.
Mais c'est ça. Il y a un côté assez inquiétant. Ils sont pas spécialement agressifs.
En fait, ils sont totalement pacifiques. Ouais. Mais tous les animaux du Costa Rica sont pacifiques. Comme ouais. Le pays d'ailleurs. C'est assez ouais. Rigolo.
Y compris les serpents, quand on se promène, on risque rien.
Tout à fait.
Ouais, d'accord.
Bon, si vous leur marchez dessus, c'est quand même pas grandiose. Mais jusque là, tout va bien. Et les singes hurleurs, donc en fait, ils marquent leur territoire comme ça.
Ouais.
Donc le matin au réveil et le soir au coucher ou quand des troupes se retrouvent, voilà, ils crient pour dire, c'est moi le plus fort, mais il y a jamais d'attaque.
Bon, alors, il y a d'autres animaux, hein. Évidemment, on peut pas tous les voir, puisque la biodiversité au Costa Rica est absolument prodigieuse. Des oiseaux aussi, le quetzal.
Il y a un animal extraordinaire là-bas qui s'appelle le quetzal resplendissant, qui est sans doute l'un des oiseaux les plus beaux de la planète. L'un des plus rares aussi, il est vert et rouge, et c'est un oiseau qui est mythique, et qui ne vit pas en captivité, il se laisse mourir.
Ouais.
On le trouve uniquement dans les forêts des brouillards, donc il y en a encore au Costa Rica, à 3000 mètres d'altitude, et il ne mange qu'un tout petit fruit, un avocado.
Ouais. Alors, ils sont nombreux les animaux en voie de disparition au Costa Rica, parce qu'on a dit qu'il y avait un vrai effort de conservation qui était fait, mais est-ce que tout de même, on parlait des singes araignées tout à l'heure, les singes araignées par exemple sont en voie de disparition?
Il y a un effort du pays, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment l'un des gros problèmes qu'on peut avoir au Costa Rica, c'est le commerce des animaux domestiques. Enfin, des animaux sauvages pour les rendre domestiques. Donc, c'est aussi le problème des singes araignées, par exemple, où les bébés sont volés aux familles, ce qui peut impliquer de tuer la famille, d'ailleurs. Et puis ensuite, une fois que le bébé a été braconné, il est revendu et on ne peut plus le remettre en liberté.
Vous vous intéressez aussi aux espèces végétales, parce qu'au Costa Rica, toutes ces espèces animales sont dans un véritable écrin de verdure, hein, puisqu'on a ces forêts primaires, c'est luxuriant, hein, le Costa Rica. Est-ce que la nature végétale vous intéresse aussi, Sabine Bernert?
M'impressionne beaucoup et me passionne, oui.
Oui, eh ben ça tombe bien, parce que je vous propose d'aller faire un tour alors dans une forêt peut-être un peu moins luxuriante, avec Clément Baudet à Saint-Michel, l'Observatoire, non loin de Manosque, hein, c'est en France, dans le sud de la France, sur un site expérimental du CNRS qui permet d'étudier l'évolution de la forêt provençale face au changement climatique. Sur les passerelles aériennes de ce site, Clément a rencontré Thierry Gauquelin, professeur à Aix-Marseille Université, responsable de l'Observatoire du Chêne Pubescent.
Nous sommes ici au cœur de l'Observatoire de Haute-Provence, à côté du petit village de Saint-Michel-l'Observatoire. Eh bien, nous avons développé toutes des installations qui nous permettent d'étudier cette forêt, sa biodiversité, son devenir. Avec cette question, eh bien, avec le changement climatique, est-ce qu'on aura toujours cette même forêt dans 50 ou 80 ans? Est-ce que ce magnifique chêne pubescent sera remplacé par d'autres espèces, comme le pin d'Alep ou voire le chêne vert? Et est-ce que tout le fonctionnement de l'écosystème, le sol, la végétation, eh bien, seront modifiés par ce changement climatique? Nos installations, ça a été de mettre en place tout un système de passerelles. Et ces passerelles, eh bien, vont nous permettre d'accéder aux branches supérieures de nos chênes, entre 3,50 m et 6 m, de façon à pouvoir étudier cette canopée dont on sait depuis le radeau des cimes en milieu tropical que c'est bien sûr le siège de tous les échanges avec l'atmosphère, mais que c'est aussi le siège d'une biodiversité tout à fait particulière qu'il est important d'étudier.
Je vous suis, je vais monter les marches avec vous. On est tout en haut de la cime des arbres avec quelques branches qui grignotent la passerelle.
Donc on peut cheminer le long de 40 mètres sur cette passerelle.
Donc il y a quand même une vue assez incroyable sur la Provence depuis ici.
tout à fait, on observe toujours cette forêt. Et quand on sait que ce type de forêt, c'est environ 300 000 hectares uniquement pour la région PACA, ça montre l'importance de ce type de forêt. Et évidemment, on peut très bien étudier ça en ayant des petits pots de chêne que l'on va mettre dans une serre. Mais ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, bah, c'est la forêt, ce que vous voyez là, avec évidemment les arbres qui interagissent avec le sol, avec sa biodiversité, etc., etc.
Et au-dessus de nous, il y a cette structure avec des panneaux qui permettent donc de fermer le toit de la forêt.
Voilà, alors ça, c'est le cœur du dispositif. Vous le savez, le changement climatique, c'est évidemment une augmentation des températures, mais c'est aussi évidemment des modifications au niveau des précipitations des pluies. Pour la région méditerranéenne dans laquelle on se trouve, eh bien, globalement, les différents modèles s'accordent à dire qu'on va assister à l'horizon 2100 à une augmentation de l'aridification avec de moins en moins de précipitations. Et c'est là-dessus que l'on a décidé de travailler. On a au-dessus de notre parcelle forestière installé un toit avec des rideaux. Et ces rideaux, eh bien, on va les fermer quand il va pleuvoir, entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Et on va donc supprimer toutes ces pluies, augmenter encore la sécheresse estivale. Et on va comparer le comportement des arbres qui sont sous cette structure avec des arbres qui sont à l'extérieur. Et on va voir comment ces arbres vont réagir individuellement et puis pris dans leur ensemble, etc. De pousser les branches qui nous gênent pour cheminer sur cette passerelle. On a en plus un certain nombre d'appareils qui nous permettent de mesurer les précipitations, l'humidité au niveau du sol, à différentes profondeurs dans le sol, à différents niveaux de la canopée, etc. Et nous, on est relativement spécialisés aussi sur tout ce qui se passe au niveau du sol, et notamment sur un phénomène majeur qui est celui de décomposition des litières. Ce processus est fondamental. On a montré, au bout de 3-4 ans simplement d'exclusion de pluie, que la décomposition des litières était fortement ralentie dans la zone d'exclusion. Il fait plus sec, il y a moins d'eau, les feuilles se décomposent moins. Surtout, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on a suivi aussi toutes les communautés de petites bébêtes, des arthropodes, des acariens. Et là, on a vu que très rapidement, eh bien, il y avait des modifications de cette biodiversité avec certaines espèces, par exemple, qu'on ne retrouvait absolument plus. Et donc là, on dit, ben voilà, il y a des modifications qui sont assez rapides.
Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de travailler sur les arbres particulièrement ?
C'est un monde fascinant d'essayer de comprendre justement comment tout ça marche, s'ordonne, réagit. Puis n'oublions pas que ces arbres, c'est des êtres vivants.
Merci Clément Baudet pour cette visite de l'Observatoire du Chêne Pubescent, un reportage en partenariat avec CNRS Le Journal. Sabine Bernert, vous photographiez aussi des arbres parfois, des plantes. En tant que photographe, vous ne vous intéressez pas uniquement aux animaux ?
Je peux passer des heures à photographier une fougère par exemple.
Ah oui, carrément, des heures sur une fougère.
Des heures sur une fougère, ouais. Oui, tout à fait.
Je vous ai vu prendre plusieurs voilà des petites notes sur votre papier pendant qu'on écoutait le reportage. Ça vous a inspiré des choses?
Oui, parce que j'entendais l'adaptation des arthropodes, ouais, par exemple. Et c'est vrai que ce sont des thèmes sur lesquels on a beaucoup réfléchi dans le cadre de l'exposition sur le muséum et dans nos livres. Et je pense qu'il va falloir qu'on prenne de plus en plus nos leçons dans la nature en, ouais, termes d'adaptation. Le biomimétisme, l'inspiration de la nature, par exemple, pour notre science, notre technologie, est un exemple pour l'architecture. Je pensais aux termitières en l'écoutant. Ouais. Avec ce système de circulation d'air et de préservation contre, ouais, contre la chaleur. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à mettre en place. Il y a des choses plus compliquées pour nous. Ouais. Hein. Les oryx sont une climatisation dans le cerveau, par exemple. Je ne sais pas combien, ouais, de temps il nous faudra pour nous adapter, ouais, à cette technique.
Les oryx, rappelez-nous ce que sont.
Les oryx sont des grandes antilopes qu'on trouve dans le désert namibien, par,
d'accord,
exemple.
D'accord. Ah, très bien. On va continuer à parler un peu de ce biomimétisme et de. Effectivement, on fait bien de se les garder, ces espèces, avec nous, parce que peut-être qu'une partie de la solution viendra d'elles. Suite et fin de notre bivouac sur la piste des animaux sauvages en compagnie de la photographe Sabine Bernert sur France Inter. Et Sabine Bernert va répondre dans un instant aux questions que vous lui avez adressées sur franceinter.fr et la page Facebook de l'émission. Them Fake Leaders, c'était Ziggy Marley, le fils de Bob, sur France Inter, le temps d'un bivouac.
J'aime la quiétude. J'aime la lumière, la brume un peu, la douceur, les animaux qui apparaissent. J'aime bien l'ambiance du petit matin.
La quiétude d'une photographe au petit matin observant les animaux à travers la brume. Vous affectionnez tout particulièrement ce genre de moment dans la journée du photographe, Sabine Bernert.
J'aime le calme. Ouais. J'aime prendre mon temps avec les animaux, soit en prenant des photos, soit particulièrement en ne les prenant pas. Ouais. Ce qui m'arrive également.
Ouais, ça, parfois, pour bien observer, il faut laisser l'appareil
photo... Pour en profiter, pour laisser l'animal tranquille, pour laisser le scientifique travailler tranquille.
Ah, vous dites pour laisser l'animal tranquille. Alors, ça répond à Paul qui nous écoute et qui nous envoie cette question... Pour les espèces sauvages très menacées, les prendre en photo de si près, est-ce vraiment utile, vous demande Paul. On parlait en tout début d'émission d'un petit lézard que vous aviez approché de très près.
C'est une excellente question et ça montre un intérêt véritable pour la nature. C'est une vraie difficulté et le respect de la nature est essentiel. Moi, je travaille avec des scientifiques, donc je les suis dans leur boulot.
Oui.
Je ne touche jamais les animaux, je ne prends des photos que quand ils m'autorisent à le faire. Et je ne prends des photos que quand je sens que l'animal aussi m'autorise à le faire. Mmh. Par exemple, avec les geckos, alors là, c'est une petite variante de l'oligosoma dont on parlait sur la photo. Je travaille avec des geckos en Nouvelle-Zélande dont il reste que quelques centaines
d'individus.
Donc c'est vraiment une catastrophe. Et je suis la seule, par rapport aux scientifiques, à pouvoir voir si le gecko est stressé ou pas. Quand le gecko arrête de bouger, il commence à être stressé. Quand il respire vite... Il est très stressé, donc je sais à quel moment je vais arrêter de prendre des photos. Je dois en quelques secondes faire le maximum de choses et arrêter. Ouais. Alors pourquoi faire ces photos? D'abord parce qu'il faut faire connaître les espèces. Donc elles sont ensuite utilisées par les scientifiques pour leur travail, pour leur publication et pour développer la sensibilisation.
Et puis pour faire de jolies expositions, c'est ça hein, la sensibilisation.
Développer la sensibilisation,
c'est ça hein, le génie de la nature, cette exposition qui se tient au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre, dans laquelle on apprend plein de choses sur les animaux, notamment leur coopération. Hein, on apprend. Alors c'est une histoire de chez les lycaons, hein, d'estomac collectif. Racontez-nous ça.
Les lycaons, c'est un animal absolument incroyable, qui n'est pas spécialement apprécié, sauf quand on commence à savoir comment il vit. Donc c'est un chien sauvage, rien à voir avec un chien, mais on l'appelle un wild dog, chien sauvage. Et ils vivent en grande communauté. Et c'est une communauté qui a une entraide particulièrement forte. Là-bas, les anciens sont conservés, les blessés sont soignés et nourris. Et les petits, c'est la crème de la crème. Donc c'est le couple alpha qui va se reproduire, mais... Tous dans la meute vont s'occuper des petits comme c'était les leurs. Ouais. Et ils se régurgitent les uns les autres la nourriture. Donc certains vont chasser, des nounous restent avec les petits, les blessés et les anciens qui ne peuvent pas chasser restent. Mais quand les chasseurs reviennent, ils rendent une partie de la nourriture à tous ceux qui sont restés. Ouais,
une grande solidarité hein, chez les Lycaons. Question de Carole, comment fait-on pour réintroduire les félins dans la nature alors qu'ils ne sont plus habitués à chasser? C'est toute la difficulté, elle a raison.
La difficulté,
Carole.
Voilà, elle a parfaitement raison Carole. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à élever des félins sans les imprégner, c'est-à-dire sans les habituer à la présence humaine et à être nourris par l'humain. Brian Jones l'a parfaitement réussi avec le serval, comme je vous disais tout à l'heure, mais il a été très décrié dans ses méthodes, puisque plutôt que donner des croquettes ou de la viande toute prête au serval, il leur a appris à chasser. Donc, comme faisait la mère, il leur a amené des petites souris vivantes, et puis après, des petits lapins vivants et des petites antilopes vivantes. Donc, c'était un petit peu
donc pour en sauver
critiqué,
certains,
mais ça a marché.
Il a sacrifié d'autres espèces.
Mais les servals savaient parfaitement chasser quand ils ont été relâchés et ils connaissaient leur propre vie et leur indépendance.
Patricia vous demande, y a-t-il une espèce que vous rêveriez d'observer et que vous n'avez encore jamais vue?
Je rêverais d'aller voir des orang-outans. Et je sais que physiquement, c'est très, très dur. Notre ami Max Aliaga de notre collectif est l'un des spécialistes. Lui, il le fait très, très bien. Il nous ramène des photos qui sont à tomber raide. Et voilà, c'est l'un de mes rêves.
Très, très dur parce que c'est escarpé.
C'est physiquement difficile.
Il faut aller à Bornéo pour voir des orang-outans.
Oui, et puis il faut marcher pendant des heures et des heures et des heures pour arriver à les trouver.
Marco vous demande pourquoi ne pas photographier d'animaux marins?
Parce que j'ai le mal de mer.
Mais ça passe, le mal de mer. Il paraît, on nous l'a dit dans cette émission, après quelques jours, tout le monde finit par
bien
se...
Bien sûr. Et puis, on a surtout dans le collectif un photographe qui s'appelle Fabrice Guérin qui fait des merveilles. Donc non, je ne toucherai pas un appareil sous-marin.
Bon, Pierre vous demande pourquoi le paresseux n'est-il pas apprécié par les autochtones? Vous nous avez dit au Costa Rica, il n'est pas très bien vu, le paresseux, alors qu'il est, on dirait, une peluche, cet animal qui ne bouge pas sur ses arbres.
Je sais pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi il déchaîne autant l'animosité, mais il est souvent attaqué, battu, attaché à des arbres, attaqué par des chiens, martyrisé. C'est pour moi, c'est proprement incompréhensible.
Ouais. Enfin, dernière question d'Evelyne. Comment le kakapo peut-il se nourrir s'il ne vole pas? S'il ne vole pas, parce qu'on a dit
ne vole pas.
Parce que le kakapo, effectivement, on a dit tout à l'heure qu'il ne volait pas et qu'il s'était un oiseau nocturne. Alors comment il se nourrit?
Alors il court très vite, il marche tout à fait bien sur le sol de la forêt. Et d'ailleurs, les mères qui sont des très bonnes mères peuvent faire des dizaines de kilomètres la nuit pour ramener à manger leurs petits. Donc elles se débrouillent parfaitement bien. Le kakapo monte aux arbres, comme tous les perroquets. Et une fois qu'il est en haut, il a oublié qu'il ne savait pas voler, il saute. Donc il est quand même, oui, il est très doué.
Ah oui, voilà, il est agile. Nous avons beaucoup à apprendre du monde animal, il y a de quoi s'en inspirer, hein. C'est ce que vous nous commenciez à nous dire avec les termitières. On se rend compte dans votre exposition au Muséum du Havre, mille et une petites inventions de la nature sont inspirantes pour les humains. Alors il y a l'araignée, quelques centimètres, qui peut nous aider à concevoir des gilets pare-balles.
C'est déjà fait, hein.
Oui.
Ouais. Et on peut aussi citer le crocodile, par exemple. Est-ce qu'on sait qu'un crocodile, je pensais à notre ami photographe marin Fabrice Guérin qui nous a fait des photos sous-marines de crocodiles incroyables, mais est-ce qu'on sait que le crocodile voit avec sa peau?
Ah oui.
Non, lui aussi il l'a découvert d'ailleurs, après avoir fait les photos, ce qui était une bonne surprise.
Alors qu'est-ce que vous appelez voir avec sa peau?
Alors il a sous toute sa carapace un réseau de capteurs qui sont reliés à son cerveau, donc en fait il sent tous les plus infimes mouvements autour de lui. Donc le crocodile sait parfaitement où vous êtes, comment vous êtes, et peut vous attraper en un instant, même s'il vous tourne le dos.
Ah oui, et on pourrait s'en inspirer.
L'armée s'en inspire, notamment.
Très bien. La pharmacie, la pharmacopée des chimpanzés, ils savent se soigner, les chimpanzés.
Ils connaissent énormément de plantes, et Sabrina Krief du Muséum d'Histoire Naturelle les suit, notamment, pour étudier ces différentes plantes et voir comment améliorer notre médecine.
Tout ça est à découvrir dans Le génie de la nature qui se tient actuellement au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre. Et puis aussi dans toute cette collection que vous avez créée pour laquelle vous écrivez Génial Nature. Il y a un numéro sur le biomimétisme. C'est édité chez Sabine et ses copains. Un grand merci à vous, Sabine Bernert. Je vous présente notre invité de la deuxième heure. Il s'appelle Louis-Marie Blanchard. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Alors, grand voyageur, vous allez nous emmener sur les pas des aventuriers pionniers qui ont exploré l'Amérique du Nord. Ils sont nombreux, hein. On parle souvent de Christophe Colomb comme s'il n'y en avait qu'un. Évidemment, c'est sur plusieurs siècles et de plusieurs nationalités qu'ils sont partis comme ça explorer les différents recoins de l'Amérique du Nord. On va retracer l'histoire de certains d'entre eux. Vous avez publié aux éditions Paulsen l'exploration de l'Amérique du Nord avec votre fille Élise Blanchard. À tout de suite.